bienvenue à ce nouvel épisode de la critique de Yugi. Je suis Yugi, votre animateur, votre critique personnalisée, ma gang de petits chanceux, vous autres. Je suis en compagnie aujourd'hui de plein de monde. Hugo.
Bonjour!
Comme il aime appeler Bedu, aussi la charrue. Fred.
Ah bonjour.
Comme il aime appeler Bracken Flock. Et Marie.
Bonjour.
Comme il aime appeler Marie. On est ici aujourd'hui parce que, enfin, on vous présente cet épisode Coup de cœur 2021. Donc, vous ne rêvez pas, cet épisode a bel et bien lieu et vous l'écoutez présentement. Donc, on va vous présenter nos coups de cœur de l'année 2021. Nous quatre ainsi que deux absents qui nous ont donné leur nom, leur titre, leur commentaire. On a tout ça sur papier, on va dire ça pour vous. Donc, on a Poussin et Poussine, Jeff et Caro, qui nous ont donné leur coup de cœur, leur plaisir coupable également. Et on va tous vous dire ça pour eux. Merci d'être là. Je tiens à le souligner à chaque fois. C'est super important parce que votre présence compte beaucoup, 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 beaucoup pour nous. Si vous n'êtes pas là, ben on fait ça pour rien. Fait que, chance que vous êtes là. Profitez-en maintenant. Maintenant, genre là. Allez sur la plateforme que vous écoutez, là. Genre Spotify, mettons, là. Cherchez le petit bouton « Abonner ». Cliquez dessus. Ou sinon, le petit bouton « Télécharger ». Cliquez dessus aussi. Puis si vous êtes, genre, sur Apple Pod, ben, donnez des étoiles. Genre 5. Peut-être 4. 3, ça vaut pas la peine. Ça nous aide vraiment beaucoup. Ça nous donne plus de visibilité dans les barres de recherche lorsque les gens cherchent quoi écouter comme podcast. Plus on a d'écoute, plus on a de téléchargements, plus on a d'abonnés, plus on va apparaître haut dans les recherches. Donc, c'est super important que vous fassiez tout ça pour nous. Fait que profitez-en. Allez-y, là, maintenant. Bon. C'est-tu fait? OK, c'est fait. Tout-tu fait?
Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps que c'est fait. Fred, tout-tu fait?
Aidez-nous, N1, hein, vous aidez.
Ben voilà. Waouh. Ça, c'est Tom Cruise, ça.
Je le sais pas.
Oui, c'est Tom Cruise.
C'est moi qui viens de le dire aujourd'hui.
Mais c'est Tom Cruise. Hein. Aide-moi à t'aider. En quoi, non, ça?
Jerry Maguire,
voilà. Quelle belle petite anecdote. On commence tout de suite avec nos coups de cœur. Donc, on va vous présenter chacun nos coups de cœur pour l'année. Que ce soit un film, une série télé, un jeu vidéo, peu importe. Qu'est-ce qui nous a fait triper en 2021? Bedu, je commence avec toi.
Pour vrai?
Ben oui.
Quel honneur.
Ben oui.
Parfait. Mon coup de cœur de l'année, je reviens sur une plateforme que je suis le seul à utiliser, mais qui est remplie de coups de cœur. Donc, j'ai déjà fait ma critique sur Ted Lasso. Donc, c'était runner-up pour mon coup de cœur de l'année. On est sur Apple TV+. C'est définitivement The Morning Show. Série, mettant en vedette, grosse brochette d'acteurs. Jennifer Aniston, Steve Carell, Reese Witherspoon.
C'est l'affaire de newscast.
Là. Ouais, c'est ça. C'est une série qui se déroule pendant un morning show, dans le fond, là, la matinale en français. Donc, quelque chose du matin, l'équivalent un peu de Salut, bonjour ici, ce qu'on connaît. Mais on n'est pas là-dedans. On est dans vraiment la nouvelle plus. Donc, une série où ça commence où les deux animateurs qui sont joués par Jennifer Aniston et Steve Carell. Steve Carell est pris dans le scandale de hashtag MeToo pour des actions qu'il aurait commis. S'est mis à jour et là, lui se fait retirer de l'antenne. Et tout le brouhaha qui s'en retourne pour le remplacer, les jeux de coulisses qui avaient lieu même avant tout ça, je pense que ça vient chambarder un peu les plans du réseau. Donc, Reese Witherspoon arrive comme arrive là, mais sans vraiment être... C'était pas son plan, et c'est elle qui va le remplacer. Pourquoi j'ai beaucoup aimé cette série-là, c'est l'intrigue est vraiment bien ficelée. On voit les coulisses de la télé. Je dis pas que c'est vrai, mais je crois que c'est assez collé sur le fait que ça empiète sur nos vies 24 heures sur 24. Je dis nos vies, mais la vie des gens qui font ce métier-là. Ils abordent des sujets quand même délicats. Le hashtag MeToo, Aussi la présence des gens racisés à la télévision. Donc, on sait beaucoup de personnes blanches. Donc, ils vont quand même aborder ce sujet-là. L'éclairage de cette série-là, c'est de toute beauté. C'est vraiment... ça m'a frappé. J'écoute les épisodes puis je me dis... Waouh, c'est beau. La musique est bonne. Le jeu des acteurs, c'est vraiment, vraiment bien. On a gagné plusieurs prix aussi pour cette série-là. Et le fait aussi que ça soit collé sur l'actualité, même s'il y a un décalage, bien sûr, dans la saison, il y a deux saisons présentement là, de disponibles, on se colle à un moment donné dans la saison 2 là, sur le début 2020 où il y a l'impeachment de Donald Trump, les démarches. En même temps, il y a le début de la COVID en Asie. Et là, on voit que les gens... la vision des gens à l'époque, là, c'est pas grave, c'est en Asie, ça viendra pas ici. C'est important de parler des élections qui s'en viennent, etc. Et là, on voit la dualité des sujets, des gens qui disent « Non, faut en parler, c'est important. » Tout ça. Et là, comment c'est rentré aux États-Unis, tout ça... c'est vraiment bien fait. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette série-là. C'est mon coup de cœur. J'avais hâte d'écouter chaque épisode. Et là, la joie d'avoir un épisode par semaine et non pas pouvoir binge-watcher une série au complet. Donc, il fallait attendre.
C'est de plus en plus ça dans les... peu importe les streamings, c'est de plus en plus un épisode à la fois. Je pense qu'il y a encore juste Netflix qui le fait.
Ben, c'est normal un peu parce que tu veux pas que les gens s'abonnent un mois, clenchent toutes les séries, puis après ça, se désabonnent. Excusez, je faisais un petit bruit bizarre. Je suis étouffé avec mon propre air. Donc, vraiment, là, de pouvoir... c'est correct, j'aime ça. Ça nous garde... on a hâte d'écouter le prochain épisode. Ça. Donc, Morning Show, la matinale sur Apple TV+. Là, je viens de vous donner deux séries sur Apple TV à écouter. Abonnez-vous. Vous écoutez Ted Lasso quand vous filez, vous voulez rire. Puis vous écoutez la matinale pour quelque chose de plus substantiel. Vous n'avez aucune raison de ne pas payer le 5,99$ par mois. En dedans de deux mois, vous avez tout écouté ça et facilement rentabilisé votre investissement.
C'est drôle que tu parles de ça parce que justement, là, ils commencent à regarder ça, les séries, tout d'un coup. Je veux dire, ça te barre une soirée, ça, une série, tout d'un coup.
Ouais, puis en même temps, tu écoutes la série d'un coup, puis tu as fini vite, puis tu fais comme « Oh! »
Mais je trouve que
t'en veux plus.
C'est déjà fini.
Ouais, mais on n'a pas le temps d'apprécier nécessairement. Quand on enligne les épisodes un après l'autre, là, j'ai l'impression qu'on n'apprécie pas le. Parce que moi, j'apprécie plus le. Ok, tu sais, je vais porter plus attention, on dirait, à l'épisode en l'écoutant un par semaine.
Exact. Puis ça te permet justement d'y penser.
De réfléchir à ce que tu as vu. Ok, ouais, la semaine prochaine, qu'est-ce qui pourrait se passer? Comment ils voient ça? Et non pas, ok, je vais savoir tout de suite ce qui se passe. Moi, j'aime bien, mais je suis un adepte du câble encore depuis, donc j'ai pas fait de cord cutting. Moi, j'aime la série. J'ai la télé à cause des séries télé qu'on voit à chaque semaine. Pour moi, je suis encore old school, et mais j'ai plein d'affaires d'abonnement, donc bon choix en masse.
Super, excellent coup de cœur. Quelqu'un veut se lancer pour le deuxième?
Maryse, première dame, allez-y.
Première dame? Première dame. Ouais. Ça me donne un peu trop d'importance. Je suis comme un peu malheureuse que ça soit sur une plateforme que les gens n'ont pas beaucoup. C'est sur Prime, c'est ça?
Oui.
Prime. Et c'est Good Omen. En fait, c'est ma fille, notre fille, à moi, Hugo, qui a littéralement composé sa vie pendant un bout de temps autour de cette émission-là. On avait le droit à toutes les répliques, on avait le droit à tous les costumes, on avait le droit à tous les événements. Jusqu'à temps qu'on finisse par faire, là, il faudrait peut-être l'écouter, savoir de quoi il en retourne. Parce qu'on connaît les phrases clés, mais on connaissait pas vraiment ce qui en était. Donc, on s'est mis à écouter ça. Mon Dieu, c'est du bonbon. C'est extraordinaire. C'est drôle, mais intelligent, ce que j'aime beaucoup. L'humour musical est merveilleux. Les chansons sont toujours bien choisies pour le moment où est-ce que ça joue. C'est à peu près juste du Queen qui joue, donc ils ont vraiment été capables d'aller chercher toutes des tunes de Queen qui fonctionnent avec le moment. Et c'est ça. Tous les personnages, il n'y a pas un personnage que tu dis, lui, il sert à rien. lui, je l'aime pas. Pourquoi? T'sais, tu veux tout savoir ce qui va leur arriver. Autant les personnages principaux que les secondaires, que les tertiaires, que ils ont réussi à toutes les rendre passionnants, littéralement. Pour en faire une histoire courte, c'est le début de l'humanité avec Adam et Ève. Et on a un ange, donc Aziraphal, et on a un démon avec Crowley, qui, a ouvert la brèche et donné une pomme, et l'autre a donné son épée en feu. Et là, en bout de ligne, Phyllis va se demander, imagine si le démon avait bien fait de donner la connaissance aux hommes, et que c'est l'ange qui avait mal fait de l'armer, l'homme, avec sa connaissance. Et là, tout découle de ça, où est-ce que Aziraphale devient un peu celui qui doit retrouver son épée et s'assurer que tout se passe bien, et Crowley doit s'assurer que tout se passe mal. Mais un et l'autre sont très paresseux. et feint énormément leur amitié, mais c'est clair que ces deux-là ne se veulent pas de mal dès le départ. Ils font leur job, ils ont une job à faire, puis ils la font. Et finalement, les deux, excessivement attachés à l'humanité, se retrouvent face à face avec la fin du monde. Ils doivent amener sur Terre l'Antéchrist, le fils du diable en personne.
Jésus?
Non! Non, toi, tu te trompes
de
fils.
De
ouais, tu te trompes de fils. Donc, ils décident qu'ils vont l'empêcher de devenir l'Antéchrist avec Aziraphale qui va lui apprendre à être bon et Crowley qui va lui apprendre à être mauvais. Donc, il va devenir neutre et il ne créera jamais la fin du monde. Et là, leur concept part de là. Et c'est savoureux. Bien entendu, l'ange et le démon sont extraordinaires. Mais les anges sont d'une prétention merveilleuse, mais merveilleuse! Les démons sont des idiots de première classe, ne savent rien à la vie, sauf faire du mal, donc comprennent rien à rien. La sorcière, aussi belle qu'elle peut être, elle est extraordinaire. Les quatre enfants sont merveilleux. On s'attache aux autres tout de suite. Lui qui est supposé d'être le chasseur de sorcières, il est tellement maladroit, on l'aime d'amour. Et on a pitié pour lui à chaque fois.
Pauvre enfant.
On a le chasseur de sorcières diplômé qui est accompagné de sergent peau de fleur et de commandant peau à crayon et de... pour tenter d'avoir une armée qui se tient. Et on a la dieuse de bonne aventure qui est Jézabel à temps perdu, donc...
Bon. Ça, dans le fond, c'est un anime?
Non.
C'est pas
non.
Un anime.
Non, alors, c'est pas un anime. C'est vraiment une série action, avec des acteurs...
OK.
Ouais.
C'est des épisodes de...
Une heure, ouais. Okay. Des épisodes d'une heure avec un intro qui est tellement belle que tu peux pas la skipper. Non seulement la chanson est bonne, mais l'intro, elle est tellement délicieusement bien animée. Il y a aussi qu'à chaque fois que tu écoutes le prochain épisode, tu vois les nouveaux personnages introduits, que là, tu réalises qu'on tu les vois dans l'intro. Mm-hmm. Puis là, la fois d'après, tu en réalises un petit peu d'autres, puis un petit peu d'autres. Ce qui fait que tu as toujours envie d'écouter l'intro avant que ça commence. Fait que moi, ça a été mon coup de cœur. Je l'ai fait découvrir à mon frère, à mes parents, à tout le monde autour de moi. J'ai lu le livre que j'ai adoré. Le livre, il est aussi bon que la série. Souvent, les livres sont meilleurs, mais non, là, ils ont vraiment réussi à faire presque un copier-coller de ce qui se passe dans le livre.
On rappelle le titre?
Good Omen.
Good Omen.
De bons présages en français.
Sur Amazon Prime.
Ouais.
All right. Excellent coup de cœur. Ça donne envie d'écouter. Fred?
Moi, je vais pour des jeux vidéo.
Go for it.
Qu'on change la répartie. C'est sûr que si j'avais à dire un film, pour moi, ce serait Encanto. Mais je vais me lancer sur les jeux vidéo parce qu'il s'avère que c'est là-dessus que, qu'on veut mon opinion. Je vais avec mon coup de cœur de l'année 2021. Un petit jeu. Petit dans le sens pas très long, tristement. Metroid Dread.
Ok.
C'est de loin le jeu qui m'a le plus accroché. J'ai voulu le finir à 100%, mais j'avais tellement hâte de voir la fin que j'ai pas été capable de me retenir. Metroid Dread est une suite au Metroid classique, soit Fusion, qui est le dernier Metroid classique avant de shifter vers les Prime et autres. Ce jeu-là suit la même recette classique des Metroid connus. Donc, c'est un side-scroller platformer. Tout ce qui est plus classique. C'est les gens qui aiment les Castlevania, les gens qui aiment les Metroid, les gens qui ont aimé les Silk Song de ce monde. C'est un jeu fait pour vous. On suit Samus Aran, qui est une chasseur de primes, qui a un penchant pour sauver l'humanité d'un risque potentiel. Et tristement, à chaque fois, finit toujours par détruire des planètes.
Es-tu en lien avec Katamari Damacy?
Non. Okay. Elle fait des bruits, mais pas ça.
Ok.
Donc oui, on est Samus Aran, et comme dans tout bon Metroid, on perd nos capacités. L'affaire, c'est qu'ils vont jouer avec un nouvel aspect qui s'appelle l'horreur. On va nous inculquer une certaine puissance en début de partie, qu'on perd rapidement. Et puis on nous met dans une situation où on doit être constamment poursuivi contre un ennemi auquel on ne peut rien faire. Puis c'est ce qui rajoute l'horreur, le stress, l'anxiété dans le jeu. Puis ça rajoute une nouvelle plateforme, une nouvelle façon de voir ce type de jeu-là, qui est excessivement agréable. Puis c'est quand tu passes le jeu, quand tu avances dans le jeu, ces risques-là deviennent de moins en moins grands, et ça augmente le sentiment de puissance dans un jeu. Tu sais, prends un exemple, dans les Metroid, habituellement, quand tu trouves les items, ben tu deviens vraiment fort, c'est le fun. Mais de partir d'un moment où ce que, hey, je suis plus capable de rien faire contre cette personne-là, parce ce monstre-là, parce que ben je suis pas assez fort, hein, j'ai tellement de manières de m'en sauver que je n'ai plus crainte, ça donne vraiment un aspect beaucoup plus gratifiant pour le joueur. Puis je pourrais pas logiquement dire que c'est pas un de mes boss fights préférés. À la base, dans mon stream Bracken Frog sur Twitch, je ne streamais pas le jeu, mais quand j'ai commencé, puis j'ai fait comme ok, il faut que je montre ça aux gens. Le boss fight, ça m'a pris 2 heures à le faire, parce qu'il est quand même très difficile, mais il est tellement hot.
2 heures à le faire non-stop, ou 2 heures parce que t'es mort souvent? Puis...
2 heures parce que je suis mort souvent. Okay. Difficile. Il est vraiment difficile. Puis pourtant, j'étais à 77% du jeu. Fait que tu sais, c'est comme... Mais ouais. Mais comme chaque chose, il y a un défaut. Il est très court, le jeu.
Ouais.
Ça m'a pris 11 heures de passer à 77% de tous les items.
Là-dessus, il y avait 2 heures de boss.
Là-dessus, il y avait 2 heures de boss.
Ça t'a pris 9 heures, finalement.
Ça m'a peut-être pris 9 heures. Mais
pour un jeu qui coûte tough.
Un jeu qui, dépendant du jeu, a le prix de vente normal et plein prix à 80$.
Okay.
Mais c'est un bijou. Si on y donne le temps, c'est un beau jeu qui est un casse-tête, c'est un beau jeu qui est un jeu d'action. Les nouvelles mécaniques dedans de counter au melee sont vraiment le fun à apprendre, à maîtriser, ce qui donne une autre perspective au jeu, parce que d'habitude, Metroid, tu tiens le plus loin possible, mais plus maintenant. C'est vraiment super agréable. Je le recommande chaudement à n'importe quel gamer classique. Ça se traîne sur Switch, ça se traîne n'importe où, ça se joue n'importe comment. C'est le fun. C'est juste le fun.
Alright. Fait que, coup de cœur pour Metroid Dread.
Le jeu.
Nintendo Switch. Nintendo Switch. On va y aller avec le coup de cœur de Poussine, alias Caroline, qui est la copine de Poussin, alias Jean-François, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Poussine, son coup de cœur est une série Marvel, donc une des nombreuses séries Marvel sur Disney+, et c'est la série Loki.
Donc, ils ont pris.
Pour ceux qui connaissent Caro, on n'est pas du tout surpris.
Tellement surpris.
Loki est son personnage de toute la série Marvel, de tous les personnages Marvel, de tous les films. C'est son personnage préféré. Donc,
C'était le contraire aurait été surprenant que son coup de cœur aurait été autre chose. Mais, selon elle, c'est l'une des meilleures séries sur Disney+. Elle n'a pas tout à fait tort. Moi, Loki a fait partie dans mes top 3 que je ne savais pas quelle prendre pour mon coup de cœur de l'année. Le fait que la série rouvre justement le concept de multivers dans la série Marvel, dans le MCU de Marvel. Le principe que c'est, selon elle, ce qu'il y a... Comment je pourrais expliquer ça? Que Marvel est sorti un petit peu de leur long métrage habituel. Donc Marvel était reconnu pour faire des films, et là, soudainement, ils se retournent avec des séries télé. Même si Loki n'était pas la première, WandaVision était la première, Loki était la troisième série, mais je pense que c'est vraiment là qu'ils ont ancré leurs pieds dans le court-métrage, dans les séries télé. Caro n'aime pas non plus le principe de méchant pour être méchant. Donc Loki est un méchant, mais avec énormément de profondeur. C'est un personnage complexe, c'est un personnage qui a beaucoup d'historique, qui a beaucoup de personnalité en tant que tel.
Beaucoup de contraste.
Beaucoup de contraste. C'est un bon, mais c'est un méchant. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambiguïté dans tout ce qu'il fait. C'est ce que Poussin aime vraiment beaucoup, beaucoup du personnage. Et c'est ce qu'elle a aimé de la série également. Elle a beaucoup aimé aussi la relation que Loki a avec Morbius. Ou Morbus? Morbus?
Morbius.
Morbius. Morbius. Voilà.
Morbius, c'est le vampire.
Morbius, c'est le vampire.
plus tard.
La relation que Loki a avec lui et le contraste que ça fait avec dans l'organisation du TVA dans laquelle il se trouve. Leur relation a apporté le côté humour de la série. Et elle note aussi que la série est beaucoup plus dialogue. Contrasté aux autres séries qui sont beaucoup plus action, si on pense justement à Falcon et Winter Soldier, qui sont très 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 action. Loki est vraiment plus dialogue, vraiment plus psychologique.
Même WandaVision.
WandaVision était très 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 psychologique également, beaucoup mais plus c'est que.
Quand même beaucoup d'action.
Mais il y a beaucoup d'action.
Tu pognes les derniers épisodes, non Loki, c'est
pas. Mais Loki aussi, il y a quand même beaucoup d'action, veut pas.
Oui, mais c'est instantané, Loki.
Ouais.
Non, j'aime beaucoup le point.
Voilà. Et évidemment, ben son petit côté cucu est embarqué avec sa petite histoire d'amour de Loki et Loki.
Oui, mais ils disent que ce qui est le plus difficile à faire, ça serait de réussir à vivre avec soi-même.
En effet.
Mais là, Loki est en train de réussir à vivre avec lui-même.
Absolument.
Au travers d'elle-même. Wow. Et vice-versa.
Tout à fait d'accord.
Mais absolument. C'est ça, tu sais, il est en train de prouver qu'il est capable, lui, de vivre avec lui-même. Et il peut apprendre à s'aimer. Et combien d'entre nous est vraiment capable de s'aimer et de se regarder dans le miroir et de se dire « je m'aime
».
Alors que lui, c'est son chemin qu'il a fait, finalement.
Donc, il montre, dans plusieurs épisodes, il montre à quel point... Il reconnaît tous ses défauts dans la fille et dans les autres personnages de Loki qu'on voit. Il reconnaît tous ses défauts, il apprécie ces défauts-là et il sait vivre avec ces défauts-là, tout comme avec ses qualités.
Exactement.
Et c'est très, très bien montré dans la série.
C'est extraordinaire d'amener ce côté-là. Il s'aime lui-même. Non, mais en fait, c'est tough s'aimer soi-même. C'est très difficile.
Et le contraire, elle n'est pas sûre si elle aime Loki. Donc, elle n'est pas encore rendue au même point que lui est rendu. Et de voir également tous les variants des Loki, dont l'alligator qui est simplement sublime. Donc voilà, c'est le coup de cœur de Carline.
Si je peux me permettre un commentaire, Yugi.
Go.
Je pense que quelque chose qui est vraiment, vraiment important de notifier, c'est qu'ils ne savent pas à quel point TVA représente beaucoup d'autres choses pour le Québécois moyen.
Ouais.
Surtout que c'est le même logo.
Ouais,
c'est vraiment l'enfer.
L'organisation n'est pas un canal de nouvelles. Il faut faire la différence. Mais oui, bon petit point. Mon coup de cœur à moi. J'ai hésité vraiment beaucoup entre de nombreuses séries parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup. Il y en a eu des bonnes toute l'année, à mon avis. Il y avait The Witcher, la saison 2, que j'ai adoré. La saison 3 ou 4 de Cobra Kai.
4.
C'est 4. Saison 4 que j'ai quand même vraiment beaucoup aimé.
Il y a Lost in Time, Lost in Space que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé également. Toutes les séries Marvel que j'ai vraiment adoré. Hawkeye en particulier, qui est mon top 2 borderline premier. Si vous n'avez pas écouté Hawkeye encore, go for it, allez-y, écoutez ça. Mais personnellement, moi, c'est Lock and Key qui est venu me chercher. Série qui est sortie en 2020, saison 2 en 2021. Hugo, t'as un commentaire?
Ah, j'ai pas aimé ça.
D'accord.
J'ai commencé saison 1, 3 ou 4 épisodes.
Ah, mais vois-tu, je m'en allais...
Là, tu vas me dire, rentre au 5 ans?
Je m'en allais exactement là-dessus, parce que les gens à qui je l'ai fait écouter, je leur ai dit le commentaire, laisse passer le 3e, 4e épisode. Après ça, ça l'embarque non-stop, là. Ouais, mais la saison 2 est sortie en 2021. Moi, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Le concept de la maison des clés avec plein de clés différentes qui font chacune quelque chose de différent et la façon que les nouvelles clés sont apportées, la façon que les nouvelles clés sont utilisées tout au long des deux saisons. Les personnages, à mon avis, très attachants, particulièrement le petit gars, Bodhi, j'aime vraiment beaucoup Bodhi. L'acteur qu'il joue pour un kid, il fait une job exceptionnelle, je trouve ça magnifique. Il y a l'acteur aussi, que son nom m'échappe, celui qui jouait Iceman. Dans les X-Men. Bref, c'est lui qui joue l'oncle. Un acteur que j'aime vraiment beaucoup. On ne le voit pas très très beaucoup dans la saison 1, mais un personnage crucial dans la saison 2. La saison 2, justement, nous explique vraiment plus en profondeur l'historique de la maison, l'historique des clés, comment ils ont été créés, puis pourquoi les méchants font ce qu'ils font dans la série. Visuellement, je trouve ça beau. Small town des États-Unis, ben relax, la méga grosse maison, quasiment magique, et les trois enfants qui doivent balancer leur vie normale à l'école secondaire par rapport à cette maison magique-là incroyable, puis le méchant qui veut carrément conquérir le monde avec ces clés-là. Moi, j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup aimé. Généralement, mes séries télé, je les écoute dans l'autobus, donc j'écoute généralement un épisode par jour. J'ai commencé à écouter l'épisode 1 de la saison 2 dans l'autobus. Je suis revenu chez nous, je me suis clenché tous les épisodes de la saison 2.
J'ai écouté pas aller travailler, t'as pas aller
marrant. j'ai fini ma journée de travail. Et quand je suis revenu, je me suis tapé tous les épisodes de la saison 2. C'est à ce point-là à quel point j'ai vraiment beaucoup aimé la saison 2. Beaucoup plus que la première. Je suis d'accord avec toi, les trois premiers épisodes de la saison 1. J'étais pas sûr, mais j'ai continué, puis je suis tellement content d'avoir continué.
Ben, je vais juste mettre un commentaire qui revient dans mes critiques, un peu comme Supergirl, parce que je sais qu'on en a parlé, puis t'en as parlé dans tes séries DC. Moi, c'est après 3 ou 4 épisodes, tu m'as pas accroché. Il y a tellement de choix de séries disponibles que je vais passer à autre chose. Un peu comme d'autres séries qui ont amené, ah, j'aime moins ça, ben j'arrête. Je ne vais pas me continuer absolument. Donc, Lock and Key, pour moi, ça me
mais je suis d'accord avec toi. Généralement, après 3-4 épisodes, ouais. Si la série est pas bonne, la série sera pas bonne. Mais il y a des exceptions.
Et oui.
Et à mon avis, Lock and Key, c'est une de ces exceptions-là. Personnellement, moi, je le recommande vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Je connais 2-3 personnes au travail qui ont commencé la série après mon commentaire sur Facebook et qui se sont clenchés les deux saisons de back-to-back, qui ont adoré également. Donc, encore là, c'est comme n'importe quoi. Chaque personne aime ce qu'il aime et n'aime pas ce qu'il n'aime pas. Hein?
C'était beau comme phrase.
C'était beau comme phrase. Hein? C'était profond. C'était très profond. Mais voilà, c'est mon coup de cœur pour cette année. Il est arrivé vraiment côte à côte avec Hawkeye, mais j'ai vraiment eu un faible pour Lock and Key plus que pour Hawkeye, ce qui en dit beaucoup, à mon avis. Dernier coup de cœur, le coup de cœur de Jeff dit le Poussin. Un film qui est encore en salle pour les Québécois de ce monde qui ont réussi à le voir le premier week-end. Good job, parce qu'après ça, ils l'ont fermé et n'ont réouvert que très récemment. Le coup de cœur de Poussin, c'est Spider-Man No Way Home. Maryse n'est pas tout à fait d'accord présentement, mais on va quand même donner les commentaires de Poussin sur pourquoi c'est son film de l'année. De un, Poussin est un vendu Marvel. Je pense qu'il n'y a pas plus vendu Marvel que Poussin, à mon avis. Donc, le fait qu'elle soit un film de Marvel, déjà là, pour lui, c'était un plus-plus. Et c'est vraiment un wrap-up de tous les autres Spider-Man qui ont précédé celui-là. J'essaie de pas divulgâcher, mais je pense que tout le monde le savait rendu là. Je pense qu'aujourd'hui.
Mais si tu sais pas que les trois
Spider-Man. C'est ça.
Tu vis dans une grotte.
Si tu l'as pas vu encore, c'est que t'as pas internet chez vous, t'as pas la TV non plus.
Je pense que c'est quand même assez facile de déduire qu'étant donné qu'ils ont mis les autres monstres, puis ça a ouvert des brèches, c'est quand même assez facile.
C'est ça. Malgré tous les efforts de Marvel de pas divulgâcher leur surprise. Je pense que les fans ont quand même beaucoup déduit ce qui allait se passer.
Donc, les acteurs ont essayé de.
Ils ont tout essayé. Ils ont nié constamment. Mais bon, bravo pareil pour ceux qui ont réussi à ne pas le voir venir et qui ont eu la méga surprise.
Je peux juste faire une petite parenthèse. T'sais, je savais qu'elle allait être là, mais moi, je voulais voir comment elle allait être amenée. C'était ça. On n'est pas débiles à temps plein.
Ouais.
On sait que ça va arriver dans temps partiel. Mais c'était de voir comment il allait l'amener puis comment il allait l'utiliser. Fait que ça, c'est, pour moi, c'était ça que je voulais aller voir dans le film, parce que moindrement que tu vois une actualité X à un moment donné, tu vas te le faire. Mm. Puis c'est correct aussi, on est rendu en février, le film est sorti en décembre, là, on peut en parler un peu.
Absolument. Et pour Poussin et pour moi d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec son commentaire du fait que t'apportes comment ces personnages-là ont été apportés dans le film. Et je pense que ça l'a bien été amené dans le film. Les liens ont bien été faits. Ils ont gardé beaucoup du cœur des films précédents. Le personnage d'Andrew Garfield est tout si bien joué qu'il jouait dans les deux Amazing. Les Tobey Maguire, malgré... C'est clair qu'il a beaucoup plus vieilli que les autres. A quand même bien repris le rôle qu'il jouait dans la première trilogie.
Oui.
Même les méchants, à quelques petites différences près, les méchants ont quand même bien repris leur rôle. William Dafoe, il est sublime, ce gars-là. Il a quoi? Il a 65 ans, puis il fait ses stunts lui-même. Il est de toute beauté. L'importance dans ce film-là, du moins pour Poussin, c'est que si tu vas voir Spider-Man No Way Home sans avoir connaissance des autres films, tu manques beaucoup, beaucoup, beaucoup du plaisir de ce film-là.
C'est définitivement un fan movie.
C'est vraiment, vraiment un film pour les fans. Si t'as jamais vu les films de Spider-Man, tu vas sûrement aimer le film, mais il y a un paquet de surprises que tu comprendras pas, il y a un paquet de clins d'œil que tu comprendras pas.
Puis tu comprendras pas pourquoi le monde se met à applaudir dans ça.
Exactement, tu comprendras pas pourquoi il y a du monde qui pleure. Poussin fait mentionner qu'il a pleuré durant le film, et je suis témoin, et je l'ai vu faire. Il a pleuré dans une des scènes du film. J'ai moi-même eu un bon moton dans la gorge durant une des scènes du film.
Je sais,
c'est laquelle. On sait tous c'est quelle scène, mais faut pas le dire. Mais bref, Spider-Man No Way Home, pour Poussin, c'est son film de l'année. Je pense qu'il l'attendait vraiment beaucoup. Je pense qu'on l'attendait tous, en fait, beaucoup. Et à quelques exceptions près, je pense que personne n'a été déçu, à part peut-être Maryse. Maryse, pourquoi t'as pas aimé?
En fait, j'ai beaucoup aimé.
Okay.
Je dirais que dans les films de Marvel, dans ceux-là que j'aime, c'est vraiment la nouvelle mouture de Spider-Man. Les premiers, je trouvais qu'ils faisaient Power Ranger version Spider-Man. Je trouvais que c'était très petit gars comme film. Fait que moi, ça me décevait parce que c'était un héros que j'aimais bien, mais je trouvais qu'il l'avait fait vraiment pour garçon. Je dirais même pas pour homme, je veux dire pour garçon. Quand ils ont amené la nouvelle mouture, moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était que Spider-Man sortait du héros classique américain qui se doit d'être seul et déchiré entre l'amour et le devoir. Et là, il devait tout repousser, les gens qu'il aimait, parce que, oh mon Dieu, je pourrais les mettre en danger. Ce qui est le cas d'à peu près toutes les Christies de héros qui existent. Et ça me tombe assez sur les nerfs dans la vie du super-héros. Oh, et là, je me disais, première fois qu'on a un héros qui a son meilleur ami comme aide, dès le départ, pas capable de s'empêcher de dire à son meilleur ami qui il est, tu dis, mais c'est tellement ça, tu sais, je veux dire, alors, comment tu peux garder un secret de même, c'est merveilleux, les deux embarquent dans l'affaire, mais les deux partagent la fierté, les deux ont de la difficulté à pas le dire à personne, je trouve ça succulent, quand MJ, elle est amenée, moi, l'actrice qui fait... Je la trouve tellement belle. Elle est rafraîchissante, elle est drôle. Elle peut être bête, elle peut être drôle. Tu sais, c'est... Elle a comme tout, tu sais, pour elle. C'est ce que je trouve extraordinaire. Et là, elle a l'intelligence, tu sais. Elle est la copine intelligente qui sait où être, qui sait comment aider, qui... C'est pas la connasse habituelle de « Oh, mais là, je dois attendre que mon héros arrive parce que là, mon Dieu! » Non, non, tu sais, elle va essayer d'aller botter des culs, sinon elle va trouver comment qu'elle pourrait aider son chum à en botter encore plus. Et ça, je trouvais ça extraordinaire et c'est pour ça que j'avais donc ben hâte au troisième. Ben, je me disais « Oh, mon Dieu, enfin, ils ont compris qu'un héros peut réussir à être un héros tout en ayant un entourage autour de lui. » Qui ne sont pas des héros. Ils n'ont pas besoin de le comprendre dans son besoin d'être héros.
Je comprends vers où tu t'en vas.
Fait que là, tout le long, je suis vraiment sur le bout de ma chaise. Je trippe, j'ai du bonheur, j'ai des frissons à la fin. Jusqu'à temps que le, excusez le mot, mais le tabarnak décide de renier tout le monde parce que, oh, je suis un héros et je pourrais les mettre en danger. Je vous jure, j'aurais garroché le restant de ma liqueur sur l'écran. J'aurais déchiré les murs. J'étais comme, ah, oh, fudge! Tout ce qui faisait que j'aimais ce film, ils ont mis une belle croix dessus. Ils l'ont embarqué dans tous les classiques des super-héros. De, parce que je suis un super-héros, je dois me tenir loin de tous les gens que j'aime. Moi, là, ça a fait comme, bon, ben, il y a enfin un quatrième, je l'écoute pas, puis j'y fais des doigts d'honneur. Voilà.
C'est, ça a le mérite d'être là, mais je comprends ton point de vue, je comprends le pourquoi de la chose. En effet, la fin fait en sorte que, moi, ok, non, là, il retourne dans son classique.
Dans les patterns.
Dans les bons vieux patterns. Là,
de tous les super-héros. Si au moins ça avait été le pattern de Spider-Man, tu fais, ok, ouais, ok. Mais, tu sais, je veux dire, c'est quasiment comme des... il y a vraiment Quétaine pour Madame, là. C'est le Harlequin, exactement. J'en lis pas des revues. Voyons, des revues, ouais. Des livres comme ça, Quétaine, parce que tu sais ce qui va arriver. Tu sais, je veux dire, ça va même au nombre de chapitres avant que les affaires arrivent. Fait que les super-héros, ils ont fait la même affaire. C'est des Harlequins pour hommes. Donc, on est vraiment, là, tu sais, c'est comme, ce qui est romantique, c'est qu'on va taper sa gueule les méchants. Tu sais, oh mon Dieu, c'est donc bien romantique.
C'est très romantique.
Oui, romantique, en effet. Ouais, fait que, tu sais, enfin, j'avais l'impression qu'on sortait de ce harlequin-là où est-ce qu'un héros, pour être un héros, doit avoir de la difficulté avec ses relations interpersonnelles, ne doit pas tomber amoureux. S'il tombe amoureux, il doit repousser l'amour de sa vie, le regretter tous ses jours. Après ça, la fille doit lui en vouloir, ses amis doivent lui en vouloir, son entourage doit lui en vouloir. Et il doit vivre avec le poids de ça pour apprendre à devenir plus fort et un meilleur héros américain. Là, t'es comme... c'est le harlequin des hommes. Le héros était le harlequin des hommes et j'étais contente que Spider-Man s'en était détaché enfin. Puis finalement, il est retourné dans le harlequin pour hommes.
C'est drôle hein, parce que ça va à l'antipode de ce que moi j'ai pas aimé de ce Spider-Man-là, mais en même temps, ça fait vraiment beaucoup de sens. Moi, je trouvais que ce Spider-Man-là, il était trop genre, il se reposait trop sur les gens qui l'entouraient versus les autres. C'est comme, pour moi, les deux premiers Spider-Man de Tom Holland, je les ai moins aimés. Parce que j'étais comme, ben, c'est Iron Man, la figure principale, derrière tout ce qui se passe.
Ah, c'est sa figure de père.
Mais en même temps, ça fait en sorte que dans le dernier, il a besoin de tous ces gens-là. Il a besoin d'avoir de l'aide, des gens qui connaissent et qui aiment. Non, c'est très intéressant.
Mention spéciale au coup de cœur, Poussin.
Ah oui, voilà.
Mais ça reste que...
Excuse-moi, Poussin. Jusque-là, c'était bon.
Mais ça reste un excellent film, quand même. Ça reste l'un des meilleurs films, à mon avis, de l'année 2021, quand même.
Un film qui est polarisant comme ça, souvent, ça amène la discussion, puis c'est ce qui fait que c'est un bon film.
Et voilà, exactement. Si c'était un film plate, on n'en parlerait pas, Eternals. Alors, on continue, en fait. C'était ça nos coups de cœur, en fait, de chacun, pour l'année 2021. Mais je voulais apporter une petite touche supplémentaire à cet épisode avec nos plaisirs coupables.
ce qu'on aime écouter ou ce qu'on aime, les jeux qu'on aime jouer, mais qu'on n'ose pas nécessairement le crier haut et fort.
Parce qu'on a honte d'aimer.
Parce qu'on a honte un petit peu d'aimer ça. Je me suis dit, gars, on va juste être 4-6 autour de la table, on va pouvoir s'en parler, c'est pas grave, y'a personne qui va le savoir. Donc profitons-en. Donc Poussin, et continuons tout de suite avec lui, son plaisir coupable, ce à quoi il joue et qui n'ose pas le crier haut et fort sur les toits, c'est Marvel Puzzle Quest. Un jeu mobile à la Candy Crush. Et c'est son plaisir coupable, mais c'est un des miens aussi, parce que moi aussi je joue à ce jeu.
Caro aussi
joue à ce jeu. Donc c'est un jeu à la Candy Crush, version Candy Crush, version Marvel. Donc c'est un aligner les couleurs, puis faites des combos, puis tout ça. Mais on cumule des héros, on collectionne les héros de Marvel. Chaque héros a des pouvoirs différents qu'on peut utiliser en plus de faire les combinaisons de lignes et de... Ben, il n'y a pas d'autre chose. Des combinaisons de lignes, tout simplement. De lignes et de couleurs.
Bien sûr.
Voilà, donc des combinaisons de lignes et de couleurs. Les héros peuvent faire des pouvoirs. Donc, on accumule les couleurs. Chaque héros a 3 pouvoirs selon les couleurs qu'il cumule. Et effectue leur pouvoir pour battre l'ennemi, l'équipe adverse et avancer dans l'émission. C'est super simple comme jeu. C'est loin d'être comme... C'est comme Candy Crush, mais Candy Crush, à un moment donné, ça devient hyper redondant dans le sens que c'est de niveau en niveau. Il nous rajoute de la difficulté. Tu continues, il te rajoute une difficulté. Tu continues... Et c'est des difficultés par-dessus difficultés par-dessus difficultés. Pas dans celui-là. Pas dans Marvel. Marvel Puzzle Quest, c'est vraiment fait pour s'amuser à collectionner les personnages de Marvel et à botter les culs de l'équipe ennemie. C'est vraiment ça. Donc c'est très simple comme jeu. Je comprends Poussin d'aimer ce jeu-là. Jeff, ça fait plus de 6 ans qu'il joue, puis il joue encore. Moi, j'ai commencé plus tard, mais lui, ça fait plus de 6 ans qu'il joue, et il joue encore. Donc, veux pas, c'est un jeu qui est quand même fort apprécié. Surtout, Poussin n'est pas un très gros gamer jeu vidéo. Surtout mobile, donc le fait qu'il y en a un qui l'apprécie en dit beaucoup, beaucoup à mon avis. Donc Marvel Puzzle Quest, c'est un jeu mobile, surtout au cellulaire, c'est possible de jouer, surtout vos iPads, c'est possible de jouer également. Gâtez-vous, allez le télécharger, essayez-le, ça vaut la peine. Hugo, plaisir coupable.
Mon plaisir coupable de l'année 2021.
Pas nécessairement de l'année, les plaisirs coupables.
Ah, ben ok. Mon plaisir coupable des derniers temps. C'est une série Netflix, produite par Netflix. C'est Never Have I Ever. Donc, c'est une comédie romantique d'ado. Okay. C'est grosso modo une série. Il y a dans le fond 21 épisodes au total de 30 minutes. Là. C'est vraiment, ça s'écoute bien. C'est l'histoire d'une jeune indo-américaine. Ses parents sont des immigrants indiens. Elle arrive ici. Son père décède, donc elle se retrouve seule avec sa mère. Et elle est dans l'année, là, il appelle sophomore, là, dans le fond, 15-16 ans. Et là, elle se dit, là, faut qu'on... Elle est avec ses deux amis qui sont un peu... ces trois nerds un petit peu... c'est pas les kids les plus populaires. Et là, elle décide, bon, là, faut qu'on soit... C'est comme notre dernière année avant d'être junior high. Là, faut qu'on soit populaire, slash peut-être aussi, genre, enfin, perdre notre virginité. Là, c'est vraiment un peu cucu comme ça. Et là, elle se fait un plan avec ses amis. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Puis tout ça. Puis là, il y a le beau gars de l'école. Puis il y a l'autre, il y a comme un autre personnage, là. Ben Gross qui est comme son némésis, qui est l'autre gars qui est bon à l'école, puis les deux c'est des premières classes, puis ils combattent là, genre qui va avoir la meilleure note, etc. Et là elle est le personnage, son nom, le nom de l'actrice là, je veux pas faire d'erreur, mais son personnage s'appelle Devi, et elle est comme la girl next door, c'est une fille à pas inaperçue dans le fond. Et la série a été créée par Mindy Kaling, de Mindy Project, dans le fond. Puis elle a dit que c'est inspiré par son adolescence à elle. Donc, il y a peut-être des choses qui se sont vraiment pour de vrai. Et là, on voit ce que moi j'ai aimé de cette série-là. Un, c'est facile à écouter. Tu écoutes ça 30 minutes, c'est divertissant, c'est très. Tu mets ton cerveau off, tu te laisses. Ouais, je vais dire divertir. J'aime le côté que la mère est très rigide dans la culture. Son père était beaucoup plus le rêve américain. Moi, je vais arriver, puis là, ça va bien aller, etc. D'ailleurs, son père, est, l'acteur que je ne sais pas, c'est lui qui jouait Mohinder dans Heroes.
Okay, oui.
Heroes, oui. Heroes, c'est lui qui jouait. Il jouait aussi dans The Flash
ici. Dans The Flash, oui.
Donc, c'est vraiment une comédie romantique d'ado. À un certain point, je pouvais m'identifier un peu parce qu'à l'adolescence, j'étais pas très beau, un peu nerd. Et je pognais pas, fait que là je me dis bon, je me retrouve là-dedans un peu. J'ai vraiment aimé ça. J'avais hâte d'en réécouter un épisode. Je l'ai comme découvert, la saison 1 était sortie, puis c'est dans les suggestions de Netflix, ils disent écoutez ça, puis la saison 2. Fait qu'on a commencé saison 1, puis ça a été quand même assez rapide. C'est vraiment le fun à écouter. Okay. J'ai beaucoup.
Okay. Moi, pour dire que si tu le choisissais pas comme plaisir coupable, moi c'était mon coup de cœur.
Okay.
Ah, coup de cœur,
okay. C'est moi, ça aurait été mon coup de cœur. J'ai. Et du dévi et du bonbon, là. C'est la totale, là. Okay. C'est des extrêmes de l'adolescence, ouais. mais pas quétaine. C'est des vrais extrêmes qu'on a probablement déjà.
Qu'on a déjà tout vécu.
Vécu vraiment, là. Tu sais, que t'es comme.
J'ai mal à mon secondaire,
c'est ça, exactement, là. Tu sais, c'est. C'est il y a des bouts que c'est même pas feel good, là. Tu sais, t'es comme, ouais. Oh mon Dieu, oh, on avait l'air de ça. Oh non.
Oui, je pense que.
Mais c'est ça, moi, ça aurait été mon coup de cœur s'il l'avait pas choisi comme les autres.
Okay. T'as comme la cousine qui débarque, puis elle est belle.
Ah, t'sais, oui.
C'est les, t'sais, là,
mais elle sait pas qu'elle est belle.
Ouais, elle arrive, puis elle est brillante, elle vient faire un stage aux États-Unis dans un laboratoire, puis là, elle est belle, puis tout le monde n'en a que deux yeux pour Camilla, qui est comme. C'est quand même drôle, la dynamique de Devi par rapport à ça. Mais oui, on s'y reconnaît notre adolescence quand même bien. Donc, un beau plaisir coupable. Vous avez besoin d'écouter quelque chose de léger. Vraiment, là, c'est...
Ouais,
c'est
on rappelle le titre?
Never Have I Ever, sur Netflix.
Sur Netflix. Parfait, super, sublime. Excellent, excellent. Un plaisir coupable,
ouais,
mais...
C'est pour ça qu'on n'ose pas le dire trop. C'est ça. Mais je le suggère quand même. Je le suggère à plusieurs personnes, là. Mais oui, c'est un petit peu cucu, style ado, là, fait que...
Plutôt que tu le cries pas, tu le chuchotes.
Ah, c'est moi, je l'écris. Fait qu'à chuchoter, Fred, chuchote-nous donc ton... Chuchote-nous donc ton plaisir coupable.
Va chuchoter ça, mon pète. C'est drôle que tu précises, genre, juste là, en ce moment-là, que c'est pas obligé d'être 2021 parce que ça vient de changer notre sélection. Parce que je pense jamais pour Battlefield 2042.
Oh boy!
Moi, ce jeu-là, je l'adore. Je l'adore, j'ai beaucoup aimé jouer. J'ai beaucoup joué avec Monsieur Ton lui-même. Puis j'adore beaucoup ce jeu-là. Les guns étaient fantastiques. Par contre, étant donné que tu viens de me dire que non, c'est pas juste pour 2021. Ben, ça va être un 2021 que j'ai commencé à jouer en 2011. Septembre 2011, particulièrement. Un jeu que je me suis couché dans mon salon pour juste écouter la musique de l'intro. Puis c'est une musique d'intro qui a marqué le monde du jeu vidéo. Mais on est tellement écœuré d'en entendre parler. Mais à chaque fois que j'ai besoin de me sentir bien, je vais vers ce jeu-là. Puis je me fais juger. Comme tu joues encore à ça. Skyrim, en 2021, pour fêter les 10 ans de Skyrim, ont sorti le Anniversary Edition. Et après l'avoir acheté sur PlayStation 3, PlayStation 4, j'ai acheté la version Switch. La seule version que j'ai pas achetée, c'est sur le PC puis les frigidaires. Fait que c'est vraiment juste ça. Puis ouais, Skyrim. Je sais même pas s'il faut que je le présente parce que tout le monde connaît ce mot du jeu là. Mais ça vaut la peine quand même de checker le Anniversary Edition parce qu'il y a absolument toutes les choses Microsoft. Bethesda, ben, ça appartient pas mal à faire là. Mais Bethesda a ajouté un paquet de choses qui étaient faites par la communauté. Le Creator Store, puis ont mis ça gratuitement. Il y a pour presque 120$ de contenu additionnel, des quêtes, des objets de d'autres Elder Scrolls avant, puis c'est vraiment, vraiment super le fun. C'est juste le agréable de se donner une diversité, que ce soit les flèches enchantées, feu, glace, électricité, que ce soit le nouveau kit de nécromancien, quelque chose qu'il n'y a pas dans Skyrim à la base, qui est vraiment cool. T'sais, je spoil pas rien, là. Quand vous allez télécharger le jeu, ils vont tous vous les installer. Puis c'est juste vraiment rafraîchissant. Il y a du nouveau stock. Il y a quelques quêtes aussi qui n'ont pas apparu dans le jeu à l'origine. Puis c'est vraiment très agréable. Mais ça fait 10 ans. Puis tout Skyrim, c'est le Nickelback du jeu vidéo.
C'est toujours la même toune.
C'est tout le temps la même toune.
Tout le monde aime ce jeu-là, mais personne ne veut le dire.
Ok, là, c'est ça.
Ouais, vraiment. Fait que, ouais, c'est mon plaisir coupable. Skyrim Anniversary Edition, sorti en 2021.
D'accord. C'est un très bon plaisir coupable. C'est un très bon jeu aussi. J'aime beaucoup ce jeu aussi. Donc, t'as pas de sentir hyper coupable.
Non, non, mais c'est comme... Ah, tu joues encore à ça? Mais ouais, sinon ça aurait été Battlefield 2042.
Plaisir coupable de Poussine. Les chroniques de Bridgerton. C'est même Bridgerton.
Bridgerton, ouais.
En tout cas, les chroniques.
J'ai fait des robes en Angleterre.
Exactement, wow. Exactement.
Une émission de robes.
C'est ce qu'elle a vraiment beaucoup aimé. Tout ce qui est côté, tout le côté visuel de cette série-là, tout ce qui est le côté artistique, costume, tout ce qui est de l'époque anglaise victorienne. Je sais pas si c'est vraiment cette époque-là que ça se passe, mais c'est ça qu'elle m'a écrit. C'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle a vraiment beaucoup aimé, c'est ce qui est venu la chercher. Elle dit que c'est pas le genre de série qu'elle aime écouter. Tout ce qui est justement elle aussi série Harlequin, elle aime pas ça pantoute, puis tout ce qui est QQ ou de rose, normalement elle aime pas ça pantoute, mais elle a écouté le premier épisode puis elle a pas été capable de s'arrêter. Puis c'est pour ça qu'elle veut pas le crier tout haut, parce que justement c'est très un peu QQ comme série télé.
Il y a eu beaucoup d'écoutes sur Netflix, hein?
Il y a vraiment beaucoup, ça a été une grosse, c'est un gros succès sur Netflix comme série. Le petit côté patinage de couloir et côté amour qu'on retrouve dans cette série-là a vraiment beaucoup accroché Caroline à ce niveau-là. C'est une série très stéréotypée en matière de personnages, en matière d'histoire d'amour, en matière de tout ça. Donc, tu sais, c'est tout le temps le beau gars, la belle fille, le comme trop parfait de tout. C'est cette série-là. Et pour une raison très mystérieuse, Caroline a adoré cette série-là et l'a clenché d'une shot en un seul week-end. C'est son plaisir coupable, elle ne veut pas le dire trop, mais on dit juste entre nous autres, les chroniques de Bridgerton, poussez-le bien ça.
Mais je vais la juger à partir de maintenant.
Voilà, c'est ce qu'il faut. Maryse!
Jugez pas Caro trop vite, parce que moi c'est un vrai plaisir coupable. Moi, ça a commencé pour rire parce qu'on savait pas quoi écouter. On a fait comme « Ah, mon Dieu! » Des gars stupides et des filles stupides qui n'en ont que pour leur beauté et qui, là, doivent apprendre à se retenir pour apprendre à faire des vraies connexions humaines. Je vous parle de « Too Hot to Handle » sur Netflix.
Oh.
Écoutez... Si on fait une quatrième, je vous jure, je l'écoute aussi. Tu commences ça pour rire du monde et finalement, t'as tes préférés, comprends-tu? Et là, t'en as, tu prends pitié, tu fais, mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Puis là, pauvre petit, puis là, tu sais, il faut l'aider. Puis là, il y en a d'autres, ben voyons donc, tu sais. Tu te laisses vraiment embarquer dans le jeu. Je sais pas si c'est stagé, je sais pas. Je m'en sac qu'il y aurait un scénario en arrière de tout ça, pour être honnête. C'est extraordinaire, mais ça commence toujours un peu de la même façon, donc des jeunes gens qui ne pensent qu'à fourrer, littéralement, là. Tu sais, c'est même pas...
Ton père, c'est l'occupation d'eux,
mais... Non.
Une coche au-dessus.
Oui, occupation double, jamais. Ça, oui. Non, c'est ça. Donc, qui ne pensent vraiment qu'à ça, qui sont convaincus que autant en tant qu'hommes et femmes, tout ce qu'ils ont, c'est leurs attributs physiques. C'est tout ce qu'ils ont.
C'est triste.
En effet. Mais ça peut être drôle aussi à un certain niveau, tu sais. Donc, tu les vois, mon Dieu m'a fait remarquer d'ailleurs, on les voit jamais manger, mais on les voit se maquiller. Par exemple, autant les gars que les filles, là. Puis se coiffer, puis se huiler, puis
s'entraîner,
puis s'entraîner, puis se maquiller, puis se changer. Puis se maquiller, puis se recoiffer. T'as l'impression qu'ils ne font que ça de la journée, comprends-tu? Qu'il se passe genre un 15 minutes de filmage, puis après ça, ils s'en vont tous se remaquiller, toute la gang, là, tu sais.
Wow!
Fait que là, ben, t'as les classiques douchebags qui sont convaincus d'être donc ben hot, mais ils ont toutes des faces de chiots à zigner une bonne fontaine, tu sais, c'est... Il y en a pas un là-dedans, tu fais comme, oh mon Dieu, je pense que ça vit tout chez leur mère encore, tu sais, puis ils savent qu'ils sont les préférés à maman, là, tu sais, c'est... Maman dit qu'ils sont spéciales, tu sais, c'est... Et là, t'as toutes les filles, toutes des classiques, elles ont déjà aimé, elles ont eu le cœur brisé, maintenant elles vont briser le cœur des autres. Puis je peux briser le cœur de n'importe qui, une fille, un gars, tant que je passe à la TV... Puis ça me donne des remarques, puis ça me donne des thumbs up, il n'y a pas de problème. Fait que, tu sais, tu pars avec ça, puis là, ils leur disent, vous êtes sur l'île de l'amour. Vous êtes là pour faire littéralement l'orgie, si vous voulez. Donc, ils leur fournissent le bain tourbillon, la piscine, la loge, elle est extraordinairement belle, c'est super beau, ils sont sur une île privée, les balançoires dans l'eau, on s'entend qu'en temps de couple, moi, j'aimerais ça aller passer un week-end là, pour être honnête. C'est vraiment beau. Et là, pendant la première soirée, où est-ce que là, ça se lèche ici et là, et mon Dieu, puis où est-ce que j'ai le courage de l'embrasser, puis t'as Lana, le cône diabolique, qui leur apprend qu'ils n'auront plus le droit de s'embrasser, plus le droit de se toucher avec de fortes intentions. Donc, tu peux flatter ton copain pour dire « pauvre petit ». Mais t'as pas le droit de descendre plus bas puis de dire pauvre petit. Et t'as pas le droit, bien entendu, de coucher avec qui que ce soit. Et tu n'as pas le droit de te masturber non plus. Donc, aucune gratification personnelle. Et là, c'est de voir des gars qui braillent. Mais qui braillent. Il y en a même un qui a dit qu'il veut retourner chez sa mère. En braillant. Il n'en était pas question. Le pauvre. Et là, tout ce que t'entends, c'est « my blue balls, my blue balls, my poor blue balls ». Là, t'es comme « hey, ça va pas exploser, man ».
T'es pas là pour 15 ans, là. Ils sont là pour 3 semaines.
Tu vas survivre, là. Mais regarde, ils en pleurent quasiment, puis ils ont de la misère à s'asseoir, comprends-tu, là, tu sais. C'est des chauds lapins, ces pauvres garçons-là, là.
C'est
puis là, t'as les filles, ils font comme « ah ouais, ben nous autres, on va être au-dessus des règles, viens t'as ma cocotte, on va s'embrasser ». Fait que là, mais il y a des caméras partout, on s'entend dessus. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'ils font toujours comme s'ils savaient pas qu'il y a des caméras partout. On s'est embrassé, mais on le dira pas. Et là, Lana, il y a eu un problème avec les règles. Alors, le moment de suspense, puis ils ont comme... Ah, c'est sûr qu'ils devineront pas que c'est nous autres. Esti, il y a des caméras partout. Partout, 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 partout. Il y en a ben juste pas dans la douche, je pense. Pis encore, il y en a une qui s'assure de s'assurer qu'ils font rien dans la douche. Tu sais, c'est comme... Fait que... Pis là, ben, elle dit les noms. Puis tu dis, ils vont se dompter. Ils savent bien qu'ils sont vus. Mais non, ils se domptent pas. Et là, c'est ça qui est drôle. C'est qu'ils se domptent pas. Ils sont toujours convaincus qu'avec une meilleure histoire, personne va se rendre compte qu'ils ont flanché aux règles.
Bon, mettons que je l'aurais écouté aussi, là, je pourrais rajouter que...
mettons que...
mettons que... je vous appelle, je suis tombé dessus par hasard. Okay. C'est qu'il y a un prix en argent au début, 100 000 $, et là, à chaque fois qu'il enfreint une règle, le prix descend. Fait que genre, s'embrasser, c'est 3 000, etc. Et là, le price fund descend, puis à la fin, il va y avoir un gagnant qui va gagner le pot. Fait que là, c'est ça, là. Tu l'as embrassé, t'as fait baisser le pot, puis là, c'est un peu de la chicane, là. C'est ça.
C'est tellement drôle. C'est un genre de
Big Brother, île de l'amour, passion double, mais pour de chauds lapins qui ont pas le droit de rien faire.
Ah oui, puis tu sais, c'est drôle.
Ils sont scandalisés pour voir.
Puis c'est ça, c'est too hot to handle. C'est merveilleux. C'est merveilleux de stupidité. Et finalement, tu sais, tu viens attacher aux autres parce que là, ils doivent apprendre à s'aimer eux-mêmes. Tu sais, c'est... Tout commence par ça, on s'entend. T'sais. Fait que c'est de toute beauté de les voir faire des ateliers pour apprendre à voir les gens autrement que...
Des objets.
Que des objets, exactement. Mais de se voir aussi autrement que comme un objet. Tu sais, des fois, ça laisse quand même réfléchir là, sur certaines affaires, mais pas trop. Pas trop, parce que sinon, ça serait plus un plaisir.
Non, mais tu sais, sur 12 épisodes d'une heure, tu réfléchis 7 minutes.
C'est pas si.
T'as mal à la tête, tu peux écouter ça, là.
Première saison, là, le comptable, là, il est merveilleux. Moi, ça a été mon coup de cœur de mon plaisir coupable dans la première saison.
Non, il compte. Là, on est rendu à 97 000. Là, on est rendu à 72 000, gars.
Il compte. Il y a des sueurs froides. Lui, c'est un gamer, comprends-tu? Finalement, plus qu'un show lapin.
Très long.
C'est un solide plaisir coupable.
Ah,
c'est
le summum. C'est le summum.
C'est en effet un très bon plaisir
mais
coupable.
Moi, je vous invite à partager mon plaisir coupable. C'est succulent.
Super. Mon plaisir coupable à moi n'est vraiment pas un plaisir des récentes années. Ça date de 96. Qui s'est terminé en 2003, ou 95, terminé en 2002. Bref, cette saison. Buffy, The Vampire Slayer. C'est mon plaisir coupable. J'adore cette série-là. Je pense que j'ai dû écouter chacune des saisons facilement 4-5 fois chacune. Je suis présentement en train de me retaper cette saison.
T'as pas compris encore?
J'achève, je suis rendu à la moitié de la dernière saison et la série qui a suivi Buffy, qui est Angel, qui est tirée d'un des personnages de la série, évidemment. Moi, j'aime beaucoup cette série-là. C'est... Et pour ceux qui connaissent pas Buffy ou qui savent c'est quoi sans trop savoir c'est quoi, c'est une jeune fille qui est l'élu et qui doit combattre les forces du mal, les démons, les vampires, etc., etc., etc. Ça fait très, 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 très cul-cul quand tu dis ça de même.
Oui.
Ouais, on s'entend? Cependant, il y a beaucoup de profondeur dans cette série-là. On s'attache énormément aux personnages. Beaucoup d'acteurs qui ont fait leur début dans cette série-là. Sarah Michelle Gellar a fait ses débuts dans cette série-là. Alison Hannigan a fait ses débuts dans cette série-là qu'on a vu dans American Pie et dans How I Met Your Mother. David Boreanaz, qui joue Angel, qui a eu un grand succès avec la série Bones, a commencé dans cette série-là. Même, il y a James Marsters aussi qui joue Spike, qui a fait aussi plusieurs rôles ici et là. Dans plusieurs séries, dont Smallville et dont je pense qu'il joue dans CSI également, je crois. Donc vraiment de gros acteurs qui ont commencé dans cette série-là. Ce sont des bons acteurs, ils jouent bien leur rôle, on s'attache énormément aux personnages. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'humour, vraiment beaucoup d'humour et des jokes que je ris encore malgré que ça fait 5 fois que je les écoute. Je trouve les jokes encore très très bonnes.
T'as pas compris encore?
Ben clairement non, parce que je l'écoute encore ou j'ai trop compris puis que j'aime ça. Mais c'est ça, beaucoup une humour facile à rire.
Oui, c'est coupable ça.
C'est très coupable en effet. Le seul point que je dirais peut-être, c'est au niveau de la première saison de Buffy, de la première saison d'Angel, où tu vois clairement qu'au niveau visuel, qu'au niveau cosmétique, qu'au niveau facial des vampires, qui ont rushé vraiment beaucoup et ça paraît. Mais ça s'améliore grandement beaucoup au cours des années suivantes. Les transitions se font vraiment beaucoup mieux. Les costumes sont sublimes, les monstres sont super bien faits. Un Big Bad à chacune des saisons et la saison 7 qui est cumulative de toutes les autres saisons qui ferment vraiment la roue. J'aime vraiment beaucoup cette série-là. Écoute, j'ai les 7 saisons en DVD, j'ai les 5 saisons d'Angel en DVD également, puis je les réécoute sur Disney+. Disney+, ont remasterisé d'ailleurs la série, donc c'est plus le petit carré qu'on voyait avec les bords noirs à ses côtés. Hein. Ils ont vraiment remasterisé le tout.
On n'est plus en
4x3, c'est vraiment du remaster, c'est très bien fait, une excellente qualité d'image pour une série de 1996.
Mm-hmm.
Moi j'aime beaucoup et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui adore également cette série-là et qui n'ose pas le dire parce que ben, c'est cucu, t'sais, c'est une fille qui bat des vampires, hein? C'est cucu.
Mais la toune de l'intro.
La toune est excellente, c'est l'une des meilleures tounes d'intro à mon avis de toutes les séries combinées ensemble.
Je pense que c'est exagéré.
J'en mets un peu, hein, ouais, ça. Mais bref, une excellente toune d'intro. Le principe de la femme qui est l'héroïne était quand même assez nouveau dans ces années-là. On l'avait vu dans d'autres séries, dont Xena, Royal Princess. Hein?
Alias.
Alias, oui, absolument. Mais
même s'ils ont mis beaucoup d'emphase sur le fait que c'était une héroïne, ils ont pas fait comme une des scènes préférées à Maryse dans Endgame, avec toutes les femmes qui se réunissent pour combattre le monde et que, mon Dieu, on vous met ça dans votre face, que c'est les femmes qui dominent. C'est pas présenté comme ça dans Buffy. C'est vraiment... c'est très arrière-plan, mais tu comprends très très bien qu'ils voulaient mettre l'emphase là-dessus. Ça a été créé par Joss Whedon, qui a justement fait les films Avengers. Malgré certaines controverses, mais on n'en parlera pas, on n'est pas là pour les controverses, on parle vraiment de la série. La série est une excellente série, c'est mon plaisir coupable, je l'adore. Même si je le crie pas sur tous les toits, je le fais juste dire autour de la table actuellement.
Parfait.
Voilà.
On aime cette discussion intime entre nous.
Excellent, juste entre nous autres, il n'y a personne qui nous écoute présentement.
450
000 auditeurs. Je pense qu'on soit rendu à 450
000,
mais bon.
Non, mais si on veut se rendre à 450 000, il faut cliquer sur...
abonner.
Télécharger.
Exactement. Et donner des étoiles. Super important. Donc, voilà, coup de cœur 2021, plaisir coupable. On vient de vous présenter plusieurs choses à écouter si vous
ne les connaissiez pas.
Merci de dire voilà ce que je voulais dire. Maintenant vous les connaissez, ça va peut-être donner le goût d'en écouter quelques-uns de ces merveilleuses séries, que ce soit nos coups de cœur ou nos plaisirs coupables. Bedu, Maryse, Fred, merci d'avoir été là. Super apprécié.
Merci. Ça fait plaisir.
Bien, on est bien dit d'enregistrer ça. Poussin Poussine, merci d'avoir été là à distance quand même. Merci pour votre contribution. Merci à tous à l'écoute présentement de continuer de nous écouter, de nous supporter à chaque épisode, à chaque semaine. On apprécie beaucoup. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook. Comment ça s'appelle notre page Facebook?
J'opterais pour la critique de Louis.
C'est exact. Hein, c'est le même nom que l'émission. C'est-tu pas fantastique? Rien qu'un peu. Allez sur la page Facebook. Abonnez-vous à la page Facebook. Hein?
C'est-tu voulu?
C'est un petit peu voulu.
Ah, ok.
C'est un petit peu arrangé avec le gars des vues qui est moi.
C'est toi,
c'est moi, c'est le gars des vues. Donc, allez sur la page Facebook. Toutes les nouvelles sont là-dessus. À chaque fois qu'on sort un épisode, on vous l'annonce là-dessus également. Si on a des idées qui s'en viennent, on l'annonce là-dessus également. Tout comme un excellent épisode qui s'en vient très, très, très bientôt, qui va sortir en ligne le 4 mai. Épisode spécial...
Star Wars,
la guerre des étoiles. Juste à temps pour la série Obi-Wan, qui sort également à la fin mai. Donc, on sort l'épisode de la guerre des étoiles juste avant ça pour vous remettre tout ça dans l'ordre, vous parler de ce qu'on a, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, un petit peu d'ordre chronologique dans tout ça, quelle série qui est bonne, quel film qui est bon, quel jeu qui est bon, vous parler de tout ça en ligne le 4 mai. Donc, restez à l'écoute, on va avoir ben du fun à tourner ça pour vous. Et ben, sinon là-dessus, c'est pas mal tout ce qu'on a à dire. Hein? Je pense qu'on n'a rien à rajouter. Donc, on va vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Mon Dieu, hein? Je suis tombé à cucu tout d'un coup.
Ben, c'est l'inspiration
de Buffy. C'est l'inspiration de Buffy, voilà, c'est ça, exactement.
Non, c'est Lucky, et apprenez à vous aimer.
Et apprenez à vous aimer. Ah oui. C'est, ouais, exactement. Hein? C'est pas un beau lien, ça. Hey, on arrête de dire des niaiseries. Puis,
À venir, il y a des critiques de développement personnel.
Non!
Avec toi, non!
Ça serait sublime, ça. Hey, là-dessus, on vous laisse. Portez-vous bien. Ciao, bye, tout le monde!